Examen de deux principes avancés par M. Rameau dans sa brochure intitulée « Erreur sur la musique dans l'encyclopédie » par Jean-Jacques Rousseau. 1755, début, Bibliothèque de Neuchâtel, MSR 58, MSR 59, MSR 60. Œuvre posthume, Genève, 1781, La Pléiade, édition tome 5, page 345-370. Du Pérou, Moultou, 1780-89, Quarto édition, tome 8, page 513-539. Domaine public. Examen de deux principes avancé par M. Rameau dans sa brochure intitulée « Erreur sur la musique dans l'encyclopédie ». Avertissement. Je jetais cet écrit sur le papier en 1755, lorsque parut la brochure de M. Rameau, après avoir déclaré publiquement, sur la grande querelle que j'avais eue à soutenir, que je ne répondrais plus à mes adversaires. Comptant même d'avoir fait note de mes observations sur l'écrit de M. Rameau, je ne l'ai publié point. Et je les joins maintenant ici que parce qu'elles servent à l'éclaircissement de quelques articles de mon dictionnaire où la forme de l'ouvrage ne me permettait pas d'entrer dans de plus longues discussions. Examen de deux principes avancé par M. Rameau dans sa brochure intitulée « Erreur sur la musique dans l'encyclopédie ». C'est toujours avec plaisir que je vois paraître de nouveaux écrits de M. Rameau. De quelque manière qu'ils soient accueillis du public, ils sont précieux aux amateurs de l'art, et je me fais honneur d'être de ceux qui tâchent d'en profiter. Quand cet illustre artiste relève mes fautes, il m'instruit, il m'honore, je lui dois des remerciements. Et comme, en renonçant aux querelles qui peuvent troubler ma tranquillité, je ne m'interdis point celles de pur amusement, je discuterai, par occasion, quelques points qu'il décide. Bien sûr d'avoir toujours fait une chose utile, s'il en peut résulter de sa part les nouveaux éclaircissements. C'est même entré en cela, dans les vues de ce grand musicien, qui dit qu'on ne peut contester les propositions qu'il avance que pour lui fournir les moyens, mettre dans un plus grand jour, d'où je conclus qu'il est bon qu'on les conteste. Je suis, au reste, fort éloigné de vouloir descendre mes articles de l'encyclopédie. Personne, à la vérité, n'en devrait être plus que M. Rameau qui les attaque. Mais personne au monde n'en est plus mécontent que moi. Cependant, quand on sera instruit du temps où ils ont été faits, de ce que j'eus pour les faire, et de l'impuissance où j'ai toujours été de reprendre un travail une fois fini, quand on saura que je plus, que je n'eus point la présomption de me proposer pour celui-ci, mais que ce fut, pour ainsi dire, une imposée par l'amitié. On lira peut-être avec quelque indulgence des articles que j'eus à peine le temps d'écrire dans l'espace qui m'était donné pour les méditer et que je n'aurais point entrepris si je n'avais consulté que le temps et mes forces. Mais ceci est une justification envers le public et pour autre lieu. Revenons à M. Rameau que j'ai beaucoup loué et qui me fait un crime de ne l'avoir pas loué davantage. Si les lecteurs veulent bien jeter les yeux sur les articles qu'il attaque, tels que « chiffrés »,« accords »,« accompagnement », etc., s'ils distinguent les vrais éloges que l'équité mesure au talent, du vil encens que l'adulation prodigue à tout le monde, enfin, s'ils sont instruits du poids que les procédés de M. Rameau vis-à-vis de moi ajoute à la justice que j'aime à lui rendre, j'espère qu'en blâmant les fautes que j'ai pu faire, date dans l'exposition de ses principes, ils seront contents au moins des hommages que j'ai rendus à l'auteur. Je ne feindrai pas d'avouer que l'écrit intitulé « Erreur sur la musique » me paraît en effet fourmillé d'erreurs, et que je n'y vois rien de plus jette que le titre. Mais ces erreurs, ne sont point dans les lumières de M. Rameau. Elles n'ont leur source que dans son cœur. Et quand la passion ne l'aveuglera pas, il jugera mieux que personne des bonnes règles de son art. je ne m'attacherai donc point à relever un nombre de petites fautes qui disparaîtront avec sa haine. Encore moins défendrai-je celles dont il m'accuse, et dont plusieurs, en effet, ne sauraient être niées. Il me fait un crime, par exemple, d'écrire pour être entendu. C'est un défaut qu'il impute à mon ignorance, et dont je suis peu tenté de la justifier. J'avoue avec plaisir que, faute de choses savantes, je suis réduit à n'en dire que de raisonnables. Et je n'envie à personne le profond savoir qui n'engendre que des écrits inintelligibles. Encore un coup, ce n'est point pour ma justification que j'écris, c'est pour le bien de la chose. Laissons toutes ces disputes personnelles qui ne sont rien au progrès de l'art, ni à l'instruction du public. Il faut abandonner ces petites chicanes aux commençants, qui veulent se faire un nom aux dépens des noms déjà connus, et qui, pour une erreur qu'ils corrigent, ne craignent pas d'en commettre 100. Mais ce qu'on ne saurait examiner avec trop de soin, ce sont les principes de l'art même, dans lesquels la moindre erreur est une source d'égarement, et où l'artiste ne peut se tromper en rien que tous les efforts qu'il fait pour perfectionner l'art n'en éloignent la perfection. Je remarque dans les erreurs sur la musique deux de ces principes importants. Le premier qui a guidé M. Rameau dans tous ses écrits, et qui puisait dans toute sa musique, est que l'harmonie est l'unique fondement de l'art, que la mélodie en dérive, et que tous les grands effets de la musique naissent de la seule harmonie. L'autre principe, nouvellement avancé par M. Rameau, et qu'il me reproche de n'avoir pas ajouté à ma définition de l'accompagnement, et que cet accompagnement représente le corps sonore. J'examinerai séparément ces deux principes. Commençons par le premier, le plus important, dont la vérité ou la fausseté démontrée doit servir en quelque manière de base à tout l'art musical. Il faut d'abord remarquer que M. Rameau fait dériver toute l'harmonie de la résonance du corps sonore. Il est certain que tout son est accompagné de trois autres sons harmoniques, concomitants ou accessoires, qui forment avec lui un accord parfait, tierce majeure. En ce sens, l'harmonie est naturelle et inséparable de la mélodie et du chant, tel qu'il puisse être, puisque tout son porte avec lui son accord parfait. Mais, outre ces trois sons harmoniques, chaque son principal en donne beaucoup d'autres qui ne sont point harmoniques et n'entrent point dans l'accord parfait. Telles sont toutes les alicotes non réductibles par leurs octaves à quelqu'une de ces trois premières. Or, il y a une infinité de ces alicotes qui peuvent échapper à nos sens, mais dont la résonance est démontrée par induction et n'est pas impossible à confirmer par expérience. L'art les a rejetés de l'harmonie, et voilà où il a commencé à substituer ses règles à celles de la nature. Veut-on donner aux trois sons qui constituent l'accord parfait une prérogative particulière, parce qu'ils forment entre eux une sorte de proportion qu'il a plu aux anciens d'appeler harmonique, quoiqu'elle n'ait qu'une propriété de calcul? Je dis que cette propriété se trouve dans des rapports de sons qui ne sont nullement harmoniques. Si les trois sons représentés par les chiffres 1, 1, 3, 1, 5, lesquels sont en proportion harmonique, forment un accord consonant, les trois sons représentés par ces autres chiffres 1, 5, 1, 6, 1, 7 sont de même en proportion harmonique et ne forment qu'un accord discordant. Vous pouvez diviser harmoniquement une tierce majeure, une tierce mineure, un ton majeur, un ton mineur, etc. Et jamais les sons donnés par ces divisions ne feront des accords consonants. Ce n'est donc ni parce que les sons qui composent l'accord parfait répondent avec le son principal, ni parce qu'ils répondent aux alicotes de la corde entière, ni parce qu'ils sont en proportion harmonique qu'ils ont été choisis exclusivement pour composer l'accord parfait, mais seulement parce que, dans l'ordre des intervalles, ils offrent les rapports les plus simples. Or, cette simplicité des rapports est une règle commune à l'harmonie et à la mélodie, règle dont celle-ci s'écarte pourtant en certains cas, jusqu'à rendre toute harmonie impraticable. Ce qui prouve que la mélodie n'a point reçu la loi d'elle et ne lui est point naturellement subordonnée. Je n'ai parlé que de l'accord parfait majeur. Que sera-ce quand il faudra montrer la génération du mode mineur, de la dissonance et les règles de la modulation? À l'instant, je perds la nature de vue. L'arbitraire perce de toutes parts. Le plaisir même de l'oreille est l'ouvrage de l'habitude. Et de quel droit l'harmonie, qui ne peut se donner à elle-même un fondement naturel, voudrait-elle être celui de la qui fit des prodiges 2000 ans avant qu'il fût d'harmonie et d'accord? Qu'une marche consonante et régulière de basse fondamentale engendre des harmoniques qui procèdent diatoniquement et forment entre eux une sorte de chant. Cela se connaît et peut s'admettre. On pourrait même renverser cette génération et, comme selon M. Rameau, chaque son n'a pas seulement la puissance d'ébranler ses alicotes au-dessus, mais ses multiples en dessous. Le simple chant pourrait engendrer une sorte de basse, comme la basse engendre une sorte de chant. Et cette génération serait aussi naturelle que celle du mode mineur. Mais je voudrais demander à M. Rameau deux choses. L'une, si ces sons ainsi engendrés sont ce qu'il appelle mélodie. Et l'autre, si c'est ainsi qu'il trouve la sienne, ou s'il pense même que jamais personne n'en ait trouvé de cette manière. Puissions-nous préserver nos oreilles de toute musique dont l'auteur commencera par établir une belle basse fondamentale, et pour nous mener savamment de dissonance en dissonance, changera de ton ou de mode à chaque note, entassera sans cesse accord sur accord, sans songer aux accents d'une mélodie simple, naturelle et passionnée, qui ne tire pas son expression des progressions de la basse, mais inflexions que le sentiment donne à la voix. Non, ce n'est point là sans doute ce que M. Rameau veut qu'on fasse, encore moins ce qu'il sait lui-même. Il entend seulement que l'harmonie guide l'artiste, sans qu'il y songe, dans l'invention de sa mélodie, et que toutes les fois qu'il fait un beau chant, il suit une harmonie régulière. Ce qui doit être vrai, par la liaison que l'art a mise entre ces deux parties, dans tous les pays où l'harmonie a dirigé la marche des sons, les règles du chant et l'accent musical. Car ce qu'on appelle chant prend alors une beauté de convention, laquelle n'est point absolue, mais relative au système harmonique, et à ce que, dans ce système, on estime plus que le chant. Mais si la longue routine de nos successions harmoniques guide l'homme exercé et le compositeur de profession, quel fut le guide de ces ignorants qui n'avaient jamais entendu d'harmonie dans ces chants que la nature a dictés longtemps avant l'invention de l'art? Avait-il donc un sentiment d'harmonie antérieur l'expérience? Et si quelqu'un leur eût fait entendre la basse fondamentale de l'air qu'ils avaient composé, pense-t-on qu'aucun d'eux eût reconnu là son guide et qu'il eût trouvé le moindre rapport entre cette basse et cet air? Je dirais plus. À juger de la mélodie des Grecs, par les 3 ou 4 airs qui nous en restent, comme il est impossible d'ajuster sous ces airs une bonne basse fondamentale, il est impossible aussi que le sentiment de cette basse, d'autant plus régulière qu'elle est plus naturelle, leur ait suggéré ces mêmes airs. Cependant, cette mélodie qui les transportait était excellente à leurs oreilles, et l'on ne peut douter que la nôtre ne leur eût paru d'une barbarie insupportable. donc ils en jugeaient sur un autre principe que nous. Les Grecs n'ont reconnu pour consonance que celle que nous appelons consonance parfaite. Ils ont rejeté de ce nombre les tierces et les sixtes. Pourquoi cela ? C'est que l'intervalle du ton mineur, étant ignoré d'eux, ou du moins proscrit de la pratique, et leur consonance n'étant point tempérée, toutes leurs tierces majeures étaient trop fortes d'un coma, et leurs tierces mineures trop faibles d'autant, et par conséquent leurs sixtes majeures et mineures altérées d'eux-mêmes. Qu'on pense maintenant quelles notions d'harmonie on peut avoir, et quels modes harmoniques on peut établir, en bannissant les tierces et les sixtes du nombre des consonances. Si les consonances mêmes qu'ils admettaient leur eussent été connues par un vrai sentiment d'harmonie, et les eussent dû sentir ailleurs que dans la mélodie, ils les auraient, pour ainsi dire, sous-entendues au-dessous de leur chant. La consonance tacite des marches fondamentales leur eût fait donner ce nom aux marches diatoniques qu'elles engendraient. Loin d'avoir eu moins de consonances que nous, ils en auraient eu davantage, et préoccupés par exemple de la basse tacite ut sol, ils eussent donné le nom de consonance à l'intervalle mélodieux d'ut à ré. Quoique l'auteur d'un chant, dit M. Rameau, ne connaisse pas les sons fondamentaux dont ce chant dérive, il ne puise pas moins dans cette source unique de toutes nos productions en musique. Cette doctrine est sans doute fort savante, car il m'est impossible de l'entendre. Tâchons, s'il se peut, de m'expliquer ceci. La plupart des hommes qui ne savent pas la musique et qui n'ont pas appris combien il est beau de faire grand bruit prennent tout leur chant dans le médium de leur voix. Et son diapason ne s'étend pas communément jusqu'à pouvoir en entonner la basse fondamentale, quand même il la saurait. Ainsi, non seulement cet ignorant qui compose un air n'a nulle notion de la basse fondamentale de cet air, il est même également hors d'état et d'exécuter cette basse lui-même et de la reconnaître lorsqu'un autre l'exécute. Mais cette basse fondamentale qui lui a suggéré son chant et qui n'est ni dans son entendement, ni dans son organe, ni dans sa mémoire, où est-elle donc ? M. Rameau prétend qu'un ignorant entonnera naturellement les sons fondamentaux les plus sensibles, comme par exemple dans le ton d'ut un sol sous un ré et un ut sous un mi. Puisqu'il dit en avoir fait l'expérience, je ne veux pas en ceci rejeter son autorité. Mais quel sujet a-t-il pris pour cette épreuve ? Des gens qui, sans savoir la musique, avaient 100 fois entendu de l'harmonie et des accords, de sorte que l'impression des intervalles harmoniques et du progrès correspondant des parties dans les passages les plus fréquents était restée dans leur oreille et se transmettrait à leur voix sans même qu'ils s'en doutassent. Le jeu des racleurs de guinguettes suffit seul pour exercer le peuple des environs de Paris à l'intonation des tierces et des quintes. J'ai fait ces mêmes expériences sur des hommes plus rustiques et dont l'oreille était juste. Elles ne m'ont jamais rien donné de semblable. Ils n'ont entendu la basse qu'autant que je la leur soufflais. Encore souvent ne pouvaient-ils la saisir. Il n'apercevait jamais le moindre rapport entre deux sons différents entendus à la fois. Cet ensemble même leur déplaisait toujours, quelque juste que fût l'intervalle. Leur oreille était choquée d'une tierce comme la nôtre l'est d'une dissonance. Et je puis assurer qu'il n'y en avait pas un pour qui la cadence rompue n'eût pu terminer un air tout aussi bien que la cadence parfaite, si l'unisson s'y fut trouvé de même. Quoique le principe de l'harmonie soit naturel, comme il ne s'offre au sens que sous l'apparence de l'unisson, le sentiment qui le développe est acquis et factice, comme la plupart de ceux qu'on attribue à la nature. Et c'est surtout en cette partie de la musique qu'il y a, comme dit très bien M. d'Alembert, un art d'entendre comme un art d'exécuter. J'avoue que ces observations, quoique justes, rendent à Paris les expériences difficiles. Car les oreilles ne s'y préviennent guère moins vite que les esprits. Mais c'est un inconvénient inséparable des grandes villes, qu'il y faut toujours chercher la nature au loin.